Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchier.
19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Christine Ockren. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Le dirigeant audiovisuel Xavier Couture. Bonsoir Xavier.
Bonsoir à tous.
L'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Et Alain Duhamel nous a rejoint. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
Avant de débattre dans un instant du sommet climat et de Xavier Bertrand, rien ne va plus donc à France Télévisions. Faites-vous confiance à Delphine Ernotte pour préserver la qualité et les moyens de l'information. À France Télévisions, c'est la question de la motion de défiance à laquelle répondaient aujourd'hui les salariés. Vous connaissez le contexte, hein, le groupe doit faire 50 millions d'euros d'économies supplémentaires. Emmanuel Macron aurait affirmé que l'audiovisuel public était la honte de la République. Il a rectifié, honte de la République, non, mais honte tout court, peut-être. Alors, entre l'État jamais content et des salariés qui ne veulent pas serrer la ceinture, la télé publique est-elle dans une impasse? La faute à qui? Et vous la trouvez comment, cette télé publique, simplement? Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, le constat est assez unanime. On est passé de la télévision cathodique à la télévision chaotique, écrit Malik. Après, il y a ceux qui accusent l'État. Massacre à la tronçonneuse du service public de l'audiovisuel géré par des nuls, lance Gérard. Et ceux qui accusent les salariés de ne pas vouloir changer. Ohé les journalistes fonctionnaires, France Télé appartient aux contribuables, pas à vous, grince Mousta. Bah oui, si c'est les syndicats et les journalistes qui dirigent cette maison, pas étonnant que ce soit une pétodière sans tête, soupire Pierre. Pour certains, comme les mêmes, la télévision doit même être totalement privatisée, la redevance éliminée. Mais oui, une TV d'État, est-ce vraiment démocratique, persif Citeau. Delphine Ernotte traque les économies dans les contrats précaires et les programmes. Faudrait plutôt se pencher sur le gavage des cadres, comme dans toutes les entreprises. La léthargie vient de là, assure Michel. Pastille aussi est sûr de pouvoir trouver 50 millions d'économies faciles parmi cette armée mexicaine. Libelle, elle, avoue qu'avec toutes ces radios, télé, branches et sous-branches, on est un peu perdu, comme eux. Frédéric prévient en tout cas ceux qui veulent tout fusionner, radio et télé, que ça créerait beaucoup de problèmes d'intégration, alors que la priorité, c'est le rajeunissement de l'audience. Le problème, conclut Thibault, c'est surtout que les dirigeants ont perdu de vue leur mission de service. Ils gèrent ça comme des entreprises. Avant de faire des économies, on doit réaffirmer ce que service public de l'audiovisuel veut dire, et après on fera des choix en conséquence.
Beaucoup d'experts autour de ces micros pour en parler, notamment vous, Christine Ockren, qui avez porté haut les couleurs de la télé publique. Vous en pensez quoi aujourd'hui, en 2017, de cette télé publique? Et elle est là, c'est la honte de la République?
Enfin, je trouve que cet air est d'autant plus excessif que si les propos du président de la République sont exacts, il englobait tout l'audiovisuel public, alors qu'il me semble que Radio France se porte plutôt très bien. Cela étant dit, c'est toujours très délicat de parler d'une maison qu'on a quand même beaucoup fréquentée, beaucoup aimée, mais les reproches que Benoît vient de résumer, on les entend depuis toujours. Ce sont toujours les mêmes reproches, mais qu'est-ce que c'est que la mission de service public, etc. etc. Mais pour aller droit au but, je crois que France Télévisions est victime à la fois d'une réforme qui a été, à mon avis, un contresens absolu, qui a été d'agglomérer deux chaînes qui avaient chacune leurs problèmes, et donc de cumuler, d'en faire un espèce de mammouth, encore plus ingouvernable. Et le deuxième, et l'image est un peu différente, c'est que c'est un processus géologique. C'est-à-dire que quand vous faites une coupe verticale dans les hiérarchies, et surtout à l'information, mais pas seulement à l'information, de l'encadrement de France Télévisions, vous avez toute l'histoire de la télévision publique, pratiquement.
Vous ouvrez un placard, un cadavre, quoi.
Pas placard ni cadavre, non, parce que d'abord, ils sont vivants, ils sont payés et ils sont là. Donc, et c'est véritablement une stratification, je dirais, géologique.
Duhamel, vous l'avez vu aussi, cette stratification géologique décrite par Christine Ockren. En 2017, cette télé publique, elle vous fait honneur.
Honneur, je ne vois pas pourquoi elle me ferait honneur.
Bah parce que vous en avez été également une des figures.
Oui, non, mais d'accord. Mais de toute façon, ce qu'on entend aujourd'hui, Christine a raison de le dire, c'est ce qu'on a toujours entendu. On sait très bien que, par exemple, les relations financières entre France Télévisions et l'État sont une aberration, que l'idée de dire que chaque année l'État peut modifier, quand on modifie un budget on fait pression, quand on fait pression une télévision ne peut être que empêtrée, voire pire. Bon, c'est un système qui est absurde. Il faudrait une fois pour toutes qu'il y ait un financement, et que ce financement ne dépende pas chaque année de la volonté du ministre chargé du budget. Bon, ça, c'est un problème, mais on l'a toujours connu, ce problème. Mais enfin, disons qu'il est sensible en ce moment, à partir du moment où il est question de réduire des coûts, donc évidemment, il est sensible. Bon, puis l'autre chose, c'est que les conditions de désignation de celui qui est président ou présidente de la télévision sont une absurdité. Ça revient en réalité à faire désigner quelqu'un qui n'est pas forcément compétent par des gens qui ne le sont sûrement pas.
Vous parlez du CSA, donc.
Oui, absolument.
Et parce que vous trouvez Nathalie Arnaud pas compétente.
Je n'en sais rien, mais en tout cas, je n'avais pas remarqué qu'elle connaissait la télévision avant d'y mettre les pieds.
Xavier Couture a travaillé avec elle et travaille encore avec elle, donc.
Oui, non. Puis en plus, moi, j'ai participé à son programme un petit peu lorsqu'elle a fait acte de candidature. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est pour préciser, vous avez dit qu'il y avait une motion de défiance votée par les salariés. Elle est votée par une partie de la rédaction. Il y a 3500 journalistes et 750 sont appelés à voter, dont, à mon avis, 200 ou 250 vont voter. Donc, il faut relativiser.
Ça sera une première quand même.
Oui, hein. C'est comme les élections en Corse.
Ce sera une première. Mais enfin, disons que. Aujourd'hui, il y a un peu de surréaction à l'égard d'un mouvement, certes important, il faut le respecter, mais qui en même temps ne va pas révolutionner la maison, d'autant que la motion de défiance dit bien que malgré tout, quel que soit le résultat, ça n'aura pas de conséquences directes sur le mandat des uns et des autres. C'est pour relativiser cette motion. La deuxième chose,
mais
c'est
que... La motion, est-ce qu'elle est dans une quadrature du cercle, cette Delphine?
Non, mais attendez.
Et qu'à un moment donné, avec oui. des journalistes qui ne veulent pas se serrer la ceinture et d'un autre côté, un exécutif qui dit que c'est comme ça ou c'est la porte.
Non, mais c'est pas complètement comme ça que ça s'est passé. D'abord, moi je ne dénie pas au président de la République le droit de s'exprimer sur le service public. Il le fait. Il l'a fait dans des termes qui n'ont pas été du tout ceux qui ont été rapportés dans un premier temps. Il a été dans un cadre tout à fait particulier devant des parlementaires à l'Élysée. Il a dit un certain nombre de choses en prononçant le mot honte, mais certainement pas la honte de la République s'agissant du service public de la télévision. Moi, ce que je constate, c'est que, à bien des égards, la présidente Arnaud fait un mandat exceptionnel. Le contrat signé avec le monde de la production, la création d'un certain nombre de points internes de réforme que vous ne voyez pas, qui sont absolument fondamentaux. Il manque évidemment aujourd'hui peut-être quelques éléments symboliques que d'autres présidents ont réussi à
ce que vous appelez éléments symboliques, c'est des émissions de télévision finalement.
C'est un grand programme, un grand programme très emblématique, mais je rappelle simplement pour la petite histoire que les audiences sont en train de remonter et que personne ne le pointe. Je termine juste pour dire que, et vous l'avez dit, et Alain et Christine l'ont dit, à chaque mandat, au bout de deux ans, il y a une crise. C'est régulier, ça tombe, c'est un marronnier. Je dirais que laissons le temps au temps. Honnêtement, ce qui se fait à France Télévisions est plutôt d'excellente qualité. Et moi, je relativise.
Non, mais la question, c'est est-ce qu'on lui demande pas trop de choses à France Télévisions? Il n'y a pas trop de chaînes, il ne faudrait pas en supprimer une.
Et puis voilà. Non, mais on peut en discuter. On peut discuter de tous les 50 millions.
C'est ce qu'on fait,
d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on fait.
Mais c'est ce que fait Delphine Arnaud avec la puissance publique. Elle a été reçue par le ministre de la Culture, par la ministre de la Culture. Elle a été reçue par un certain nombre des personnels de l'État qui ont en charge la gestion des services publics. Je vous assure que, voilà, relativisons la crise.
Yvan Youfol, téléspectateur.
Très modestement, parce que je ne suis pas expert, je ne suis pas non plus un fanatique de la télévision, et le peu que je regarde de la télévision publique ne me laisse pas scotcher à mon siège. Mais en revanche, je paye comme tout le monde la redevance. Donc je me pose la question de savoir si cette télévision publique a encore une utilité, dans la mesure où le monde, naturellement, de la télévision a évolué, ou même l'accès aux télévisions s'est multiplié, l'accès est même gratuit si on y va par les internets, enfin par les appareils portables. Et donc je me demande si ce n'est pas un peu suranné aujourd'hui que de parler encore de télévision publique, de télévision d'État, ce qui me paraît même un peu une incongruité dans le fond, avec cette multiplication des sources, et qu'en tout cas, peut-être pourrait-on s'interroger de savoir s'il n'y a pas une ou deux chaînes publiques de trop, en effet, quant à savoir s'il faut faire des économies de 50 millions, enfin chacun travaille dans des entreprises de presse qui doivent équilibrer leurs comptes, et ça me paraît être la moindre des choses, en effet, que de faire des économies, surtout quand c'est l'argent public.
Non mais cher Yvan, moi je veux bien tout ça, mais aujourd'hui, les frais de structure, hein, vraiment, de cette maison représentent 4%, tout le reste c'est de la production, et dans le budget de France Télévisions, il y a rien que pour les producteurs de fiction, de documentaires et de dessins animés, plus de 420 millions qui sont dépensés chaque année. Vous aurez expliqué à ces gens-là que la télévision publique ne sert à rien quand l'ensemble du monde audiovisuel repose sur les épaules de la télévision publique.
Une chaîne de trop, Christine O'Krent ?
Une chaîne de trop, c'est difficile à dire. Une chaîne de télévision de trop, on voit bien que France O a évidemment des difficultés d'audience, mais c'est en même temps l'outre-mer, donc on imagine bien la dimension politique de tout cela. Mais pour prolonger ce que vient de dire Xavier Couture, ce que le rapport de la Cour des comptes, c'est toujours la Cour des comptes, qui est évidemment le gendarme légitime de l'argent en public, ce que ce rapport pointe comme à chaque fois, c'est qu'évidemment, cette énorme masse de salariés des chaînes de France Télévisions n'explique pas pourquoi les mêmes chaînes font appel aux producteurs extérieurs ou à des CDD en général en grande quantité. Mmh. Et c'est toujours, encore une fois, c'est un problème qui remonte, mon cher Alain, à l'époque où toi et moi sévissions de conserve.
Non, Christine, on ne peut pas dire ça. Il y a 3500 journalistes qui sont, pour large part, dévolus à la fabrication des éditions de région, 3500, en région.
Oui, bah oui, justement.
Voilà, sur 9900, il y a par ailleurs tout l'appareil de production. Vous savez qu'il y a énormément de productions techniques qui sont faites en interne, et c'est plus de quelques milliers de salariés. Donc, honnêtement, il faut arrêter de dire que c'est un mammouth qu'il faut dégraisser avec des gens dans les placards qui foutent rien.
Quand même, 3500 journalistes, ça fait quand même pas beaucoup de fonctionnaires. C'est des journalistes qui sont fonctionnarisés. Bah, il y a quand même une incongruité entre les deux termes, il me semble bien, quand même. Non,
c'est quand même pas.
J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde, même métier.
On peut faire comme les Suisses, faire une votation, décider qu'il n'y a plus de télévision publique. Moi,
C'est la proposition de Xavier Couture.
Mais les Suisses en ont une.
Les Suisses en ont une. Oui.
Allez, autre sujet dans un instant, Macron et l'écologie.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Faugier.
On refait le monde à 19h32 sur RTL avec Christine Ockrent, Xavier Couture, Yvan Youfoil et Alain Duhamel. C'est sur l'île Seguin, un ancien QG du constructeur automobile Renault, qu'Emmanuel Macron a donc organisé son grand sommet climat. Le président de la République appelle à une mobilisation beaucoup plus forte, un choc pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Maintenir la hausse des températures, vous le savez, sous les 2 degrés, car on est en train de perdre la bataille. Il a aussi rappelé à Donald Trump sa responsabilité devant l'histoire. Mais au fond, est-ce que tout ça, ce n'est pas que de la com? Macron, président vert, vraiment, vous y croyez sur les réseaux sociaux, Benoît?
Ah, si c'est un sommet, c'est en effet pour beaucoup celui de la com. Claude, l'un des plus repris, n'est pas tendre. 2000 invités à un sommet inutile après celui de la COP23, il y a un mois en Allemagne. Une gabegie inacceptable de la part d'un président qui se rêve maître du monde. Un sommet sans les principaux intéressés, encore un grand machin pour rien, soupire aussi Caillet. Rien, attendez, ça peut finir avec une taxe de plus pour le contribuable, grince Patricia. On se console avec les chiffres du climatologue Jean Jouzel, la lutte contre le réchauffement. C'est 900 000 emplois créés en France, 6 millions en Europe. En fait, c'est un sommet pour rentabiliser le sauvetage de la planète, demande Alain. Bah, en fait, il n'y a plus d'argent. Vous voulez le prendre où pour la lutte contre le réchauffement, rétorquera. Mais enfin, pourquoi faut-il que ce soit rentable puisqu'on parle de garder une planète vivable? Pourquoi les contraintes économiques priment sur notre survie? Ça agace Jean-Louis. Parce que c'est le créneau de Macron. Cette capacité de double discours permanent est effrayante, rage Benjamin. Et Barnabé de noter, pendant que Macron fait son ode au climat, la Caisse des dépôts, principal levier de financement de l'État français, continue de financer les énergies fossiles. Cherchez l'erreur. Il n'y a qu'une solution, dit Carlet. Elle ne va pas vous plaire. Moins consommer pour moins produire. Ils ne feront rien là-haut, conclut Aurélien. Mais nous, on peut déjà commencer à dépenser notre argent chez des fabricants locaux. Ça réduit déjà grandement notre impact sur le climat.
Yvan Youfoil, donc Emmanuel Macron, lanceur d'alerte, d'une certaine manière, vous l'avez entendu, on est en train de perdre la bataille. Ça rappelle la
quelle
maison
découverte.
Brûle.
Quelle découverte.
En même temps, c'est
quelle
fort.
Découverte. J'ai l'impression qu'on frise le ridicule maintenant dans les grandes priorités que Macron s'est données pour son quinquennat. Ah. Il en a eu au plan intérieur ce grand plan qui était de rétablir l'égalité femmes-hommes, et non pas hommes-femmes, femmes-hommes. Et aujourd'hui.
Quelle audace.
Pardon.
Je dis quelle audace.
Quelle audace, quelle grande audace. Et aujourd'hui, il se présente comme étant sauveur de la planète. Voilà deux grands dossiers, en effet, qui ne lui apporteront.
C'est vrai que c'est pas important.
Qui ne lui apporteront que des applaudissements. Mais est-ce que ce sont bien les priorités du moment? On est dans une guerre nucléaire qui menace à travers la Corée du Nord. On a un choc de civilisation une guerre de civilisation que nous a déclaré le djihadisme, qui se passe également en France. Et on s'aperçoit que Macron, lui, choisit d'abord les sujets à sa convenance et des sujets qui ne salissent pas les mains, en tout cas, et qui, en plus, sont plutôt favorables à sa stature. Et donc, je vois que ce sommet, comment il s'appelle ce sommet d'ailleurs, c'est un peu One Planet Summit. Est un sommet qui est fait sur mesure pour lui-même, pour sa propre histoire. Et en plus, j'y vois une contradiction, c'est qu'il nous rebat les oreilles avec cette Europe souveraine qui doit prendre des initiatives. initiatives. Et une fois de plus, on se retrouve avec l'initiative d'un seul et qui fait à la place de l'Europe et qui fait à la place de tout le monde, d'ailleurs, et à la place de Trump, naturellement, qui a laissé la place, une politique donc, qui, de mon point de vue, est exclusivement construite sur la mise en scène, il sait très bien le faire, et sur la communication.
Moi, je ne suis absolument pas d'accord.
On ça tombe bien parce que c'est un débat.
On est en train de perdre la bataille. Donc, effectivement, c'est une bataille qui était aujourd'hui à livrer et à livrer d'urgence. Entre la COP21 et aujourd'hui, on s'aperçoit que tenir les 2 degrés d'augmentation de la température au cours du siècle devient quasiment impossible. Les alertes ont été effectivement lancées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un sujet que Emmanuel Macron connaît bien, on s'aperçoit que c'est la finance verte qui peut être l'un des acteurs majeurs de la résorption de ce problème. Aujourd'hui, la finance verte, elle a été d'ailleurs tout à fait affirmée par la Banque mondiale, l'ONU emboîte le pas, et je pense qu'effectivement, autour de ces grandes dispositions, relayées d'ailleurs par Bruno Le Maire avec beaucoup d'efficacité dans le discours, par Nicolas Hulot, qui a été, je crois, assez précis dans la manière dont il a exposé les problèmes et dans la manière dont il a tracé les solutions possibles, je pense que nous sommes évidemment avec un président de la République qui prend ce dossier à bras-le-corps, qui ne laisse pas les États-Unis avec M. Trump.
Mais le dossier n'est pas prioritaire, selon Yvan Youfa.
Mais il est prioritaire, ce dossier. Il est absolument prioritaire. Les dérèglements climatiques, on en vit tous les jours. Et ça devient de pire en pire. Alors, je veux bien. Et d'ailleurs, je reprends ce que disait Yvan Youfa. Parlons du djihadisme. Le djihadisme est impacté par le climat. Et donc, c'est
lui. Ça y est, vous ressortez ça, vous aussi.
Mais bien entendu,
qu'il est impacté par le climat. Vous êtes devenu très macronien jusqu'au bout, alors oui.
Mais on peut en effet. C'est pas devenir très macronien que de regarder les évidences.
Écoutez, le djihadisme. Si le réchauffement climatique est à la source du djihadisme, en effet, on est sauvé. Mais a priori, ça me paraît plus compliqué que ça.
Le djihadisme se nourrit beaucoup des problèmes migratoires, évidemment.
Oui, c'est ça.
Se sert énormément.
Dites ça aux banlieues et aux djihadistes qui sont dans les banlieues.
Mais ils vont vous rironner.
Mais non, mais écoutez, soyez sérieux. Moi, je veux bien qu'on parle de ça, mais soyez quand même sérieux un peu.
C'est très sérieux de penser qu'aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs est lié à la politique
en général,
c'est la migration.
Se perd ou dans l'immédiateté ou dans des horizons très lointains. Là, en l'occurrence,
c'est un horizon à aujourd'hui.
Mais non, c'est
l'immigration,
pas aujourd'hui.
On ne pourra pas
évaluer sa politique avant quelques années. Donc c'est très facile de faire des plans sur la comète.
Si vous voulez faire que des hommes politiques dont on évalue la politique demain...
Oui, voilà, j'aimerais. En effet, c'est ce que j'aimerais.
On va revenir à la quatrième.
C'est ce que j'aimerais. Ah bon ? Vous voulez des hommes politiques qui ne servent à rien ?
Alors, pour sortir de cet échange très vif, juste une remarque légèrement ironique pour les Parisiens qui, comme moi, ont dû mesurer la quantité de CO2 dégagé par les embouteillages absolument invraisemblables, posés évidemment par les cortèges, le fait que les ponts sur la Seine étaient interdits à la circulation, etc. Donc c'est vrai que enfermé dans une voiture à écouter les journaux d'information, il y avait une certaine ironie dans ces envolées. Cela dit, je crois que bien évidemment Emmanuel Macron a tout à fait raison de reprendre ce discours et qui est un discours non pas alarmiste, mais hélas terriblement réaliste, d'autant qu'il y a une autre dimension qu'on évoque trop peu, c'est qu'on ne sait toujours pas comment, technologiquement, maîtriser la capture du CO2 déjà émis. Donc on se préoccupe, à juste titre, et c'est déjà terrible d'essayer d'empêcher d'en émettre davantage, mais comment on fait pour récupérer celui qui déjà flotte partout ?
Alain Duhamel, prioritaire ou pas ce combat déjà et cette dimension, par la dimension, comme après la pub, mais sur la priorité.
Écoutez, d'abord, est-ce que c'est un problème qui effectivement est d'une part dramatique et qui d'autre part se passe mal en ce moment, c'est-à-dire pour lequel on n'atteint pas les objectifs qu'on a fixés ? Oui, ça c'est une évidence. C'est pas de l'idéologie, ça c'est une évidence. Deux, est-ce que ce genre de réunion apporte des solutions ? Non, évidemment. Et entre la gravité des problèmes qui est décrite dans les détails, d'une part, et d'autre part, les moyens qui sont mis en place, même s'ils sont nouveaux, même s'il y a des acteurs aujourd'hui qui essayent de faire quelque chose qu'ils ne faisaient rien auparavant, etc. Mais la disproportion est absolue. Et donc, à la limite, ce qu'on fait, qui a peut-être l'air théâtral, est insignifiant par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc, ce genre de sommet ne réglera rien, mais est parfaitement légitime et surtout reflète un problème qui, lui, est un problème qui concerne tout le monde.
On y revient après la pub.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Yvan Youfol, Xavier Couture, Christine Ockrent et vous, Alain Duhamel. Donc, la prestation tout à l'heure d'Emmanuel Macron.
On disait donc peut-être pas une priorité pour Yves Rufol, pour vous c'en est une.
Oui, c'est une priorité, bien sûr. Simplement, il ne faut pas se faire d'illusions sur ce que ce symbole, parce que c'est un symbole, ce sommet, ce que ce symbole va changer. Alors, il y a une prise de conscience. Bon, par exemple, chez les acteurs économiques et financiers, c'est une évidence. Bon, mais si on prend les décisions concrètes qui ont été annoncées aujourd'hui, c'est une goutte d'eau. Alors, tant mieux s'il y a une goutte d'eau, mais enfin, ça serait mieux que ce soit un peu plus puissant.
Et parmi cette goutte d'eau, le don de Bill Gates, par exemple, qui sera là demain à 7h45.
Il n'y a pas que ça, par exemple. Ça, c'est très important.
Bah, bien sûr.
Mais, par exemple, le fait que des fonds d'investissement norvégiens, qataris, etc., ont vécu des hydrocarbures, qui ont vécu du gaz, etc., maintenant soient prêts à faire des investissements en sens inverse, c'est en bien en soi, c'est très bien. Mais je répète, au même moment, en Allemagne, comme on arrête le nucléaire, on remet en route des usines à charbon qui sont exactement ce qu'il faut en aucun cas faire.
Mais il y a aussi une dimension, je crois, diplomatique, en tout cas une dimension internationale et symbolique qui n'est pas à négliger, c'est que bien évidemment, Donald Trump étant devenu le repoussoir absolu, ne serait-ce que sur ce problème-là, il est tout à fait positif que la France, dans la foulée, si j'ose dire, de la COP21 d'il y a deux ans, apparaisse comme reprenant ce flambeau.
Il faut reconnaître, c'est un sujet sur lequel la France, puis ça a commencé avec Chirac en 2002 quand même, la France a été quand même vraiment lanceur d'alerte.
Sans pour autant prendre elle-même les mesures nécessaires.
Mais la France est formidable comme lanceur d'alerte. Alors, de là à dire qu'ensuite, elle met en œuvre ses propres principes, il ne faut pas exagérer.
On parle de Donald Trump qui n'était pas là, la Chine et l'Inde non plus. Elle est quand même très gros pollueur de la planète, par ailleurs.
Oui, il ne faut pas être trop naïf quand même. On voit bien, malgré tout, que l'absence de Donald Trump fait qu'il y a un créneau à prendre, si je puis dire, et que Macron, très intelligemment, j'en dis qu'on vient pas, est en train de monter sa communication afin de se donner une envergure internationale qu'il aimerait avoir, mais qu'il n'a vraisemblablement pas.
En tout cas, que l'on ne voit pas.
Mais je ne voulais pas être entièrement négatif non plus. Je suis bien d'accord que le réchauffement climatique pose un problème. Et moi, ce que je retiens dans l'approche qui est proposée, mais elle ne méritait pas tout ce ramdam, c'est de mobiliser en effet les initiatives privées afin de pallier les insuffisances, les lourdeurs des initiatives d'État, les initiatives publiques. Et ceci est naturellement très intéressant, mais cela va de soi. Je pense que les entreprises n'ont pas besoin de savoir qu'il y a en effet de l'argent maintenant à faire dans les économies vertes afin d'y faire leurs investissements.
Et de l'argent à perdre.
Mais donc, ce sont quand même des évidences. J'ai l'impression que dans ce sommet, on enfonce des portes ouvertes.
Oui, mais ça fait du bien aussi d'entendre ça.
Ça fait du bien.
C'est souvent le cas des sommets.
Combien coûte ce sommet? À quoi ça sert? Et encore une fois, je trouve que vous évacuez trop rapidement cette propension qu'a Macron à vouloir à chaque fois sauver ses propres intérêts avant de s'intéresser aux urgences. Et je persiste à dire que les urgences, en tout cas pour la France, ne sont pas celles-ci.
Enfin, le leadership international fait partie des urgences. Et je voulais simplement conclure en disant que ça permet aux États-Unis un certain nombre de leaders d'opinion, en particulier Michael Bloomberg, qui a pris la tête des entreprises qui résistent à cette vision non environnementale de Trump, de se fédérer. Et il y a aujourd'hui, je crois, 240 entreprises qui ont signé un
plus un tas de collectivités territoriales, des États, des grandes villes,
ce qu'a dit Bloomberg,
etc.
C'est que de la même façon, Trump rend plus de services à l'environnement qu'il ne la dessert, parce que ça la permet...
Oui, il laisse faire, c'est très bien, mais je pense que c'est le rôle, en effet, des entreprises privées que de le faire.
Allez, dans un instant, politique, Xavier Bertrand qui claque la porte des Républicains.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
On refait le monde avec Christine Ocraine, Xavier Couture, Yvan Youfol et Alain Duhamel. Xavier Bertrand se fait la malle, le président des Hauts-de-France et ancien responsable de l'UMP a saboté l'interview de Laurent Wauquiez sur TF1 hier soir en annonçant à la même heure sur France 2 son départ des Républicains. Je ne reconnais plus ma famille politique, alors j'ai décidé de la quitter. Le tout nouveau président des Républicains lui a répondu aujourd'hui devant des députés. Ce n'est pas acceptable de claquer la porte de sa famille politique dans ces conditions. Alors Bertrand la joue perso. C'est un premier coup dur pour Wauquiez. On débriefe quoi sur les réseaux sociaux?
Les deux, mon capitaine. Alors déjà, je voulais dire à Christophe que non, Xavier Bertrand ne quitte pas la politique pour rejoindre son frère plastique Patrick Bertrand sur la tournée Star 80. Il quitte seulement les Républicains. Ah bah zut, ils n'avaient pas eu le temps de l'exclure, s'étonne René. Bon débarras, Lance Mutine, comme d'autres militants LR. Hein. Alan le traite de girouette. Il veut se recaser chez En Marche, soupçonne Pic. À Matignon même, murmure-t-on dans les couloirs, tweet Renaud Pila de LCI. Il le mériterait. Il a vraiment changé depuis qu'il est président de région. En positif, estime Agathe. Arrêtez, c'est l'idiot utile de Macron. Wauquiez est peut-être clivant, mais il a l'avantage de débusquer la fausse droite, rétorque Rossel. C'est sûr, avec ce qui reste républicain, ils n'ont plus qu'à rejoindre Le Pen et son clan, grince Esta. Oui, la vraie droite de droite va bientôt tenir dans un seul bureau. Bizarre pour Wauquiez, cette stratégie léniniste, ricane Brice. Alexandre, enfin, salue ce départ qui acte clairement l'existence de deux droites irréconciliables. C'est la fin de l'UMP, c'est-à-dire de l'alliance de la carpe et du lapin, de l'UDF et du RPR. Wauquiez est désormais libre de refonder un RPR nouvelle génération.
Alain Duhamel, coup dur pour Wauquiez ou pas du tout? C'est plutôt compliqué maintenant pour Xavier Bertrand.
Bon, disons que factuellement, c'était un piège qui était très bien tendu. Et que Xavier Bertrand a choisi son moment pour être le plus dangereux possible au détriment de Wauquiez. Donc bon, techniquement, c'était bien fichu. Bon, est-ce que c'est essentiel? C'est ce qui est intéressant, c'est pas le fait que Xavier Bertrand quitte les Républicains, où de toute façon il n'était plus beaucoup. Je ne crois pas qu'il aille pour autant ailleurs, mais ça signifie une chose, enfin à mes yeux, ça signifie une chose, c'est que Laurent Wauquiez est le président des Républicains. Laurent Wauquiez maîtrisera l'appareil, mais Laurent Wauquiez n'est pas sûr du tout d'être le candidat à l'élection présidentielle, et qu'il y en a d'autres possibles, dont Xavier Bertrand. Oui.
Ce qui est intéressant, semble-t-il, c'est que Laurent Wauquiez n'est pas député, puisqu'il a choisi d'être président de région. Or, tout son argumentaire contre, en particulier l'Élysée, consiste à jouer les territoires. Et ce qui est intéressant dans le cas de Xavier Bertrand, c'est que personne ne peut lui nier d'avoir fait ce choix bien avant, et en plus d'avoir, lui, très clairement, et au moins à deux reprises, choisi de voter contre le Front National au risque de s'allier avec un adversaire. C'est même ce qui les divise. Mais je trouve que cela amoindrit encore une fois l'un des atouts dont veut jouer Laurent Wauquiez, qui est encore une fois cette dimension, en gros, les territoires contre Paris. Et là, me semble-t-il, Xavier Bertrand...
À l'antériorité.
Elle
affaiblit.
Ouais, ce que j'ai trouvé assez malin de la part de Xavier Bertrand, c'est qu'au moment où on pouvait l'attendre avec les constructifs, il est attendu le moment précis de l'élection de Wauquiez pour pas être un constructif, mais un déconstructif. Donc il s'est mis en situation de déconstruire les Républicains en se positionnant comme l'élu de terrain, ça a été très bien dit par Christine, qui va faire valoir le fait qu'il est élu avant tout le monde. Il a réussi à prendre la région avec beaucoup de courage, il faut le dire, avec une capacité à aller affronter Marine Le Pen.
Et avec les voix de la gauche.
Mais donc c'est très malin de sa part d'être dans une situation où il n'a pas besoin de rejoindre Macron pour quand même l'avoir déjà rejoint. Donc c'est quelque chose... Il se met en situation de... Toutes les cartes sont ouvertes pour lui et le petit assureur de Saint-Quentin qui est évidemment...
Agent général,
oui. a été souvent méprisé, y compris par les élites que représente Wauquiez, parce que c'est d'ailleurs, ça fait partie... Le plus plastique des deux, c'est quand même Wauquiez quand on regarde le parcours de Wauquiez. Donc, je dirais que il est très fort dans sa manière de gérer un terrain. Il joue au go. Xavier Bertrand. Il retourne les pièces une par une avec beaucoup de sagesse, beaucoup de... Il donne du temps au temps et on sent qu'il a un projet de long terme, probablement, qu'il emmène à l'Élysée, c'est sûr.
C'est toujours le même, ils ont tous le même projet de long terme.
Son ambition... Oui, mais il joue plus lentement que les autres et peut-être avec plus de sécurité dans les coups.
C'est possible. Son ambition, en effet, vous voudrez le conduire à l'Élysée et il pense...
Quand il vous dit que c'est sa région qui l'intéresse,
Et il pense avoir, en effet, terrassé Marine Le Pen par son propre talent, en oubliant, mais ça a été dit, qu'il avait quand même été très largement aidé par le Parti Socialiste. Mais donc, gardons naturellement cette interprétation qu'il a de sa victoire, peu importe. Ce que je lui reconnais, c'est une analyse que je partage depuis quelque temps, de dire que les partis politiques aujourd'hui sont des obstacles pour un homme politique s'il veut entrer en contact avec le peuple, avec l'électorat populaire. C'est un peu ce qu'il dit, c'est d'ailleurs très, très littéralement ce qu'il a dit, qui est, tu expliques, qu'il n'ira dans aucune formation politique, même s'il quitte aujourd'hui sa formation initiale. Simplement, cette démarche, qui est une démarche à la Trump, dans le fond, parce que Trump a été élu comme ça, sur un rapport direct, en passant au-dessus des establishments, cette démarche, si elle doit être cohérente, elle doit l'obliger à écouter à un moment donné ce que dit le peuple, et singulièrement ce que dit le peuple de sa région. Or, ce que dit le peuple de sa région, c'est un peu également ce que répète le Front National. Donc il va y avoir très vite une contradiction chez lui à vouloir entendre ce que dit le peuple quand le peuple veut lui parler d'identité, parce que lui ne supporte pas qu'on parle d'identité, il veut parler que du social, et de ne pas pouvoir naturellement aller dans ce créneau-là. Et donc je lui vois, moi, une limite, qui est cette limite-là d'une cohérence. Et en revanche, quand vous disiez qu'il déconstruit les Républicains, je trouve au contraire qu'il les construit, car il oblige aujourd'hui Wauquiez, en effet, à faire le tri, Et à laisser passer ceux qui se sentent mieux maintenant chez les constructifs ou chez les macroniens, peu importe. Et d'autant que si l'on regarde les suffrages de l'élection, Maëlle de Calan, avec ses 9,5%, a bien fait comprendre que les militants républicains ne veulent plus, ça avait déjà été dit avec Juppé, ne veulent plus de ce centrisme liquéfié, mou, enfin tiède. Et donc, je pense que Wauquiez, au bout du compte, n'a pas à être inquiété de ces hémorragies-là.
Pour conclure, Alain.
Disons que Wauquiez a été bien élu, que Wauquiez a l'appareil, que de toute façon la droite dure a une base populaire qui n'est pas friable. De toute façon, il ne peut pas faire beaucoup moins de 20% et il peut espérer dans 2 ans, dans 3 ans, faire davantage. Bon, en même temps... Il s'est lui-même coupé, mais c'est sa ligne depuis des années, de toute façon. Il s'est lui-même coupé de tout ce qui pouvait être centrisme, libéraux, droite modérée. Or, pour gagner, eh ben, il faut une alliance.
Non, pas démodérée, mais
des mous. Il est coupé, démodéré.
Des mous.
Non,
allez,
démodéré.
Merci à tous les quatre. Merci Christine, merci Xavier, merci Yvan, merci Alain. Alain, on se retrouve demain à 18h30 et jeudi pour notre grand rendez-vous avec un invité exceptionnel, François Hollande, 18h30, 20h pour sa première grande interview depuis sa sortie de l'Élysée. Donc on abordera avec lui tous ces sujets et notamment, évidemment, la recomposition de la vie politique. À demain, Alain.
Vous écoutez RTL.